Et donc ma dernière invitée de ce festival 2023 de la bande dessinée d'Angoulême, Émilie Saïtas, bonjour.
Bonjour Seb.
Vous êtes née à Bruxelles, vous avez étudié l'illustration et votre premier ouvrage paru en 2018 s'appelle « L'arbre de mon père, mémoire d'une famille grecque en Égypte », un recueil de souvenirs de la jeunesse de votre père mis en image pour cette série dont le deuxième tome est sorti en 2020. Et dans la lancée du recueil de témoignages, on va parler de votre dernière publication qui s'appelle « Tout un monde, comment j'ai changé de regard sur mon mode de vie » paru en octobre dernier, un roman graphique où vous racontez les témoignages de personnes qui ont choisi un mode de vie dit alternatif et bien souvent écologique. Alors, vous le racontez à la page 12 de votre livre, mais pour celles et ceux qui nous écoutent, qu'est-ce qui vous a amené à rencontrer ces personnes et à vous intéresser à leur quotidien ?
Tout a commencé lors du premier confinement où je me suis retrouvée enfermée comme tout le monde entre mes murs et je crois que ça a été la petite graine qui a germé et qui m'a fait me poser beaucoup de questions sur comment je me sens, comment je me sentais à ce moment-là.
Oui.
J'ai beaucoup pensé à l'écologie. Je me sentais un peu anxieuse et je crois que cette période de retrait m'a donné envie d'aller vers l'extérieur et vers des gens qui étaient beaucoup moins anxieux que moi. Et comme j'ai beaucoup d'amis plutôt alternatifs qui ont un grand intérêt pour l'écologie, me parlaient beaucoup d'habitat léger, j'ai trouvé que c'était une piste d'aller vers des personnes qui ont des valeurs écolo, qui ont un mode de vie qui est plutôt cohérent, leur habitat, leur métier, tout fonctionnait. Parce qu'en fait, c'est vrai que j'ai oublié d'expliquer que à cette époque j'étais dans une colocation et c'était un très bel endroit mais qui était situé entre une autoroute et le périph.
Oui.
Et que ça, durant le confinement, je pense que ça a joué. J'avais l'impression d'être dans une enclave plutôt polluée, ultra bétonnée, et ça impactait beaucoup mon mental.
C'est vrai que dès les premières pages, vous donnez des chiffres. Habiter dans une grande métropole comme Paris, c'est risquer de faire partie des 2500 à 6600 décès par an dus à la pollution, en précisant que même en ne fumant pas, le fait de respirer un an l'air de Paris équivaut à la nocivité de 183 cigarettes. Et le fait d'habiter, vous venez de le dire, près d'un axe routier augmente considérablement les risques de cancer, d'embolie pulmonaire et de leucémie. Voilà un triste constat qui forcément peut motiver à aller se mettre au vert, spécialement quand on se retrouve enfermé chez soi dans un confinement.
Oui, et c'est vrai que j'aime pas me rappeler de ces stats, mais c'est important d'ailleurs sur les autoroutes, on voit même des messages écrits à l'arrache, fumez-tu, pas fumez-tu, la pollution des voitures tue, je sais pas si vous voyez ces slogans qu'on trouve sur les autoroutes, et moi je pense qu'en fait ça marche sur moi ce genre de message, ça me fait beaucoup réfléchir sur l'usage de la voiture, sur notre rapport à notre consommation de plein de choses qui sont polluantes, et là c'était vraiment le moment de faire le point, de mettre tout à plat.
Et vous êtes donc parti à la rencontre de ces personnes qui ont franchi le pas et parfois tout plaqué, pour reprendre une expression bien connue, pour tenter une nouvelle expérience de vie plus en accord avec leurs principes. Alors, au risque de se lancer dans un peu de la sociologie de comptoir, est-ce qu'on peut dresser un ou plusieurs portraits types de ces personnes qui partent s'émanciper dans un mode de vie alternatif ?
Alors, j'ai pas envie de les mettre dans des cases parce que c'est surtout des personnes qui ne veulent pas d'étiquette. Et ce que je comprends, parce que chacun a son individualité. Mais d'ailleurs, dans mes portraits, il y a un fil rouge, il y a des intérêts communs, mais chacun a son histoire et chacun a ses raisons de faire ce choix de vie. Mais le point commun, c'est une remise en question de tout ce qui va à l'encontre de la vie, du vivant, de tout ce qui n'a plus de sens. Quand on fait un pas en arrière, dans cette grosse machine de notre quotidien, on voit qu'il y a des choses qui sont aberrantes. Et peut-être que le point commun de toutes ces personnes, c'est qu'ils ont pris le temps de faire le point. Et ils ont une grande sensibilité à l'extérieur plutôt qu'à l'intérieur. Leur chez-soi, c'est à la limite, c'est sommaire, c'est juste pour avoir un toit sur la tête, mais beaucoup des activités des personnes que j'ai rencontrées se passent à l'extérieur. Et ça, c'est un rapport qu'on a peut-être un peu perdu quand on vit en ville.
Et d'ailleurs, on sent beaucoup de bienveillance, autant vous envers les personnes que vous êtes allées voir, qu'envers les personnes que vous allez voir qui partagent leur quotidien, leur mode de vie, leur façon de penser. On sent qu'il y a beaucoup de bienveillance et du coup, les gens se livrent, sont sincères et veulent vraiment faire partager leur vision avec beaucoup de sincérité. Vous avez réussi à saisir ça. Et vous parlez des habitations aussi vers le début du livre. Vous décrivez différents types d'habitations écologiques, économiques, parfois même autosuffisantes. Et au-delà des habitations, comme vous l'avez dit, il y a des modes de vie, des écolieux qui sont des expériences sociales avec des organisations alternatives, un peu comme des micro-sociétés qui remettent en question la grande société. Et on peut se demander si l'un va sans l'autre pour quitter un mode de vie urbain ou même agricole, industriel. Est-ce que la démarche n'est pas forcément un minimum politique, même si elle est évidemment personnelle?
Oui, il y a beaucoup de militantisme chez les personnes que j'ai rencontrées. Mais comme t'en as parlé, Seb, oui. La bienveillance est de mise. C'est un militantisme très positif, très inclusif, plein d'espoir, solidaire. C'est pas l'image d'un militantisme qu'on peut avoir contestataire et plutôt négatif et...
Oui, c'est qu'on assume ouais. d'avoir un idéal, en fait. On a cet idéal, on le porte, on l'incarne.
Et qu'il est possible.
Et on fait la démonstration qu'il est donc possible selon certaines conditions, mais on montre qu'on peut le faire.
Oui. C'est ça. Une démarche exemplaire. Oui. Même si il n'y a... C'est pas une secte, quoi. C'est pas parce qu'on rentre dans le mouvement des habitats légers qu'on commence à avoir des habitudes sectaires. Je pense que c'est plutôt... quelque chose de très ouvert, une mentalité très ouverte.
Oui, c'est vrai que c'est un reproche qui peut parfois être fait, mais là, justement, on voit dans le livre que ces gens-là disent, ben non, on n'est pas parfait, on est parti de ce constat-là, on a eu envie de faire ça, on a réussi à le réaliser, et voilà comment on le partage, et voilà comment on le vit au quotidien, avec les bons, les mauvais côtés, mais on le fait en tout cas, c'est un passage à l'acte, en fait, c'est vraiment une manière de montrer qu'on peut franchir le pas. Et justement, dans les difficultés, dans les témoignages, vous évoquez que les autorités ont les moyens juridiques d'interférer avec les habitations et modes de vie alternatifs. À se demander qui se met en marge et qui marginalise l'autre, en fait. Et est-ce que ça ne crée pas une solidarité, voire même une organisation des personnes à qui on demande toujours sans cesse un peu de se justifier, vous l'avez montré avec les habitats légers qu'on est obligé normalement de déplacer régulièrement, qui même si c'est sur son propre terrain dont on est propriétaire, on n'est pas garanti de pouvoir y habiter. C'est quelque part, oui. les gens peut-être partent dans une démarche personnelle au départ, mais au final finissent par s'échanger des tuyaux, par se souder, et au final ça rapproche, en fait.
Oui, c'est vrai qu'il y a une... J'ai ressenti parfois une fatigue de devoir se justifier.
Oui.
Et puis je peux le comprendre. Ça doit être fatigant de juste vouloir vivre à sa façon et qui est plutôt... de façon totalement en accord avec la nature. On ne comprend pas de quoi il faut se justifier. Et cette idée de se serrer les coudes, elle revient souvent. Entre personnes qui vivent en habitat léger, ou avec la famille, les amis, le village entier, l'écolieu entier.
Oui, c'est qu'on peut voir donc cette expérience des écolieux où... ou si vous venez avec peu de moyens, vous pouvez compter sur l'aide matérielle, physique et le soutien aussi moral de tout un tas de personnes qui sont déjà passées par là et qui vous accompagnent dans cette démarche pour vous montrer que oui, c'est possible, que vous serez soutenu. Et effectivement, ça crée un genre de sentiment de communauté où on sent que bon, voilà, on n'est quand même pas seul quand on le fait. On n'est pas seul, c'est important. Et en se basant sur ces témoignages recueillis, qu'est-ce qui, chez les gens que vous êtes allés voir, justement, a fait que ça valait le coup d'opérer ce changement radical? Forcément, quand on change, on perd quelque chose, mais on gagne aussi autre chose. Alors, qu'est-ce que ces personnes ont trouvé qui fait sentir que ça valait le coup de quasiment tout plaquer pour rebâtir ailleurs? On sent qu'il y a différents témoignages où les gens se sentent parfois plus complets, plus en accord. C'est vraiment cette idée de se sentir plus, on va dire, en accord avec ses principes qui l'emporte.
Je pense qu'il y a un sentiment de paix et d'accomplissement que j'ai vu dans chacune des personnes que j'ai rencontrées. Et moi-même, pour l'avoir expérimenté, me lever au milieu des bois le matin et ne rien voir d'autre autour de moi que du vert, du calme, c'est un sentiment magique que je n'avais pas jamais vraiment pu expérimenter habitant en ville. C'est un luxe énorme d'être en phase avec la nature. Et je pense que quand on vit de cette manière-là, avec moins d'attaches et plus de liberté, on atteint une forme de paix.
Et effectivement, c'est une expérience. Donc, en tant qu'on n'a pas vécu, on n'a pas forcément une idée. Mais comme vous l'avez dit, quand on le vit déjà, ça nous inspire quelque chose de différent. Oui. En fait, on se rend compte que peut-être ce qui nous paraît évident, ben, ne l'est pas tant que ça. En fait, c'est juste qu'on a été posé là dans un modèle de société qu'on n'a jamais trop remis en question. Et pourtant, on gagnerait à le remettre en question. Et question pour le plus grand nombre qui n'a pas forcément l'idée ou l'envie vraiment de partir se construire une maison dans la nature. Est-ce qu'il n'y a pas déjà des mesures de salubrité publique qui seraient envisageables par les dirigeants, comme par exemple l'isolation des logements urbains, qui sont pour l'heure souvent des passoires thermiques, des passoires sonores? Quand vous donnez des exemples de logements conçus pour être plus écologiques et économiques, on note déjà que l'isolation et la verdure, elles occupent déjà une place très importante.
Oui.
Et c'est du coup, ça permettrait... là où je voulais vous amener, en fait, c'est que même si tout le monde ne pourrait pas franchir le pas, ou ne voudrait pas, on pourrait déjà... ce genre d'expérience un petit peu... marginales pour l'instant peuvent déjà nous inspirer en fait et nous dire mais même en vivant en ville ou dans un petit pavillon, on pourrait déjà s'inspirer de ce qui est fait ailleurs pour améliorer nos conditions de vie.
Oui, exactement. D'ailleurs, j'y consacre le dernier chapitre qui n'est pas sur un habitat léger mais qui est sur une maison de ville d'époque où la personne que j'ai rencontrée a eu toute une réflexion sur comment procéder à des travaux dans sa maison sans abîmer ce patrimoine et sans apporter de matériaux polluants. Et il y a toute une partie qui est consacrée à son isolation, quels sont les matériaux qu'il faudrait utiliser. Bon, il y en a qui disent oui, mais des matériaux naturels, c'est beaucoup plus cher et puis c'est pas spécialement efficace. Mais je pense que sa démarche est quand même salutaire. Et pour avoir vu sa maison et le temps qu'il a consacré, c'est une dizaine d'années qu'il a consacré à dépolluer sa maison parce que l'ancien propriétaire avait fait beaucoup de dégâts. C'était assez touchant de voir tout ce qu'il a fait pour rendre l'identité initiale de sa maison. Il a même été au cadastre pour chercher des plans, pour voir comment était la maison à l'origine, qui date du XVIe siècle, je pense.
Oui, c'est ce que vous dites dans le livre, qu'effectivement, elle était aux alentours des années 1500-1600 et qu'elle a failli être massacrée donc, par son ancien propriétaire qui a voulu la moderniser, mais vraiment, comme on dit, à la truelle, quoi, sans aucun souci de préserver quoi que ce soit. Et donc, un énorme travail de réhabilitation qui, là, pour le coup, n'est pas une habitation légère, mais qui peut quand même bénéficier de pas mal de soins et de traitements et donc de matériaux plus écolo.
Oui.
Autre sujet dans le livre, vous faites également un point sur les déchets avec un ordre d'idée de ce que produit un bébé en couche jetable, d'où l'intérêt du lavable, et vous y mettez une photo d'un site d'enfouissement de déchets, le genre de site qui pollue les sols et les eaux à proximité, souvent à l'abri des regards, et de quoi appuyer que ce qui part dans nos poubelles, y compris le recyclage, peut venir s'ajouter à des tonnes de déchets dont on ne sait déjà plus quoi faire. Là aussi, même si on ne vit pas en tiny house ou en yurte en pleine forêt, on peut déjà quand même se poser la question... des emballages et de leur impact. C'est important aussi pour vous de faire passer ce message.
Oui, alors la photographie du site d'enfouissement, c'est une photo que j'ai prise moi-même il y a plus de 2 ans.
Ouais.
C'est un site situé dans la Drôme et ça m'a impressionnée. Et je savais que c'est un massacre, la gestion des déchets, et que on fait du mieux. Il n'y a pas spécialement de... On n'a pas énormément de solutions entre brûler les déchets, essayer de les trier ou les enfouir sous la terre. Mais c'est impressionnant de se dire que le problème, il n'est pas réglé du tout. Une fois que le déchet, il est dans le sol, il va polluer sur des années. Et combien de temps on a avant qu'il n'y ait plus d'espace pour mettre nos déchets. Et c'est tellement simple de boire dans un gobelet en plastique, mais est-ce qu'on se rend compte qu'on est des milliards sur Terre à faire ça et qu'on va droit dans le mur? Donc c'est important de mettre cette photo à mon échelle, de dire rappelez-vous de où il va finir votre gobelet.
Oui, comme le disent certains, le meilleur déchet, c'est celui qu'on ne produit pas en fait. avant même de penser à le recycler, déjà, il faut déjà ne pas le produire, ce sera encore mieux, quoi.
Oui.
Aussi bien qu'on peut, bien sûr, hein, on n'est pas.
Et oui, pour ça, avoir la petite prise de conscience quand on nous propose n'importe quel, quel objet non recyclable.
Oui, c'est vrai, ça me fait penser qu'à ce propos, on avait retrouvé il y a une dizaine d'années, je crois, des pots de yaourt en pleine mer qui dataient des Jeux Olympiques de 1976, quelque chose comme ça. Ils ont voyagé, ouais. ils ont parcouru la moitié de la Terre, ils sont revenus s'échouer sur un rivage.
C'est assez effrayant.
Donc voilà, on commence depuis une dizaine d'années à voir les conséquences de ce qui se passe depuis une cinquantaine d'années.
Oui.
Donc là, effectivement, il serait peut-être judicieux, on va dire, de réfléchir aux 50 prochaines années. Parlons de l'identité graphique de tout un monde, le style crayonné jusqu'à la couleur peut faire penser à un carnet de voyage, même si le trait et la colorisation sont plus soignés et détaillés qu'un carnet de voyage. C'est un style qui se prête à ce genre de récit, de format. C'était spécifiquement pour ce type de projet ou c'est comme ça que vous aimez dessiner d'une manière générale?
J'aime beaucoup le crayon de couleur. Mes deux précédents albums étaient réalisés au crayon de couleur de la même manière.
Exact.
C'est quelque chose que j'aime car c'est simple. Et c'est accessible à tout le monde. Tout le monde peut avoir des crayons chez soi et s'emparer de cet outil pour raconter. J'aime que le dessin soit un art accessible. Et la BD aussi. Et les couleurs que j'utilise, oui, c'est une palette plutôt douce. Et c'était des couleurs qui étaient apaisantes comme le calme que j'avais envie de rechercher en allant à l'extérieur, dans la nature.
Vu que vous semblez passionné pour explorer le monde et le retranscrire en bande dessinée, est-ce qu'on peut s'attendre à ce que ce premier tome de Tout un monde soit le premier d'une longue série qui sera éventuellement étoffée par vos voyages et expériences?
Je pense pas.
D'accord.
Peut-être si j'en ferais... J'y ai pensé, mais j'ai énormément d'autres sujets que j'ai envie d'aborder... C'est un thème qui m'est très cher, mais il y a d'autres thématiques qui m'intéressent et je prends 2 ans pour faire un livre. Donc, des fois, je me dis, le temps est limité, il faut que je rationalise tout ce que j'ai envie de raconter avant d'être trop âgée. Mais si je faisais un deuxième tome, ce serait plus consacré, je pense, au jardin ou... Oui, mais en ce moment j'ai vraiment mille autres idées en tête.
Oui, donc vous les avez effectivement. Mais c'est vrai que déjà vous ouvrez pas mal de portes, de pistes. La permaculture, les jardins sous serre, toutes ces choses-là sont abordées dans votre livre, selon les témoignages effectivement des gens qui les pratiquent et qui vous en font des bons retours. Donc déjà voilà, ça fait quand même une bonne base de départ. Et on peut toujours évidemment trouver les ressources sur internet, dans des collectifs pour approfondir et faire ces démarches. Je sais qu'en Charente, pour ne parler que de la Charente, il existe pas mal déjà quelques collectifs justement de tiny house et d'habitations un peu alternatives. Super. Comme ça, où on peut bénéficier voilà de conseils et parfois d'un coup de main même. Est-ce qu'on peut vous retrouver sur le festival pour des rencontres ou des dédicaces?
Oui, alors le dernier jour qui nous reste dimanche, je serai là de 15h à 17h sur le stand Delcourt.
D'accord.
Au Monde des Bulles.
Le Monde des Bulles, très bien. Eh bien parfait, donc rappel utile, Tout un monde, comment j'ai changé de regard sur mon mode de vie, un roman graphique d'Emilie Saïtas paru en septembre dernier chez Delcourt. Merci Emilie.
Un grand merci Seb.
Et bon festival.
Merci.